Bien, on se retrouve pour un échange autour de ces films vraiment très, très étonnants. Surtout, je crois, le deuxième est très étonnant et très troublant aussi, parce qu'il y a vraiment un trouble géographique à certains endroits. Je ne sais pas, Nino, si vous voulez reprendre la parole, ou si je pose une question, s'il y a déjà aussi des questions dans la salle. Oui.
Non. Géorgien. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais il y a tout le temps des clins d'œil en fait entre ces deux peuples, même à l'image, ça pourrait être la Géorgie. Je me dis.
Oui, je me suis en fait, vraiment posé la question.
Ouais. Voilà, vous avez vu le premier film et on retrouve les impressions et les atmosphères comme ça. Mais en fait, j'avais vu ce film avec la voix d'Otar.
Ah d'accord.
Ouais.
Dans une version télévisée, sûrement.
Peut-être. Parce que et en fait cette fête là qui se rejoue en noir et blanc et après en couleur, enfin il disait en gros que les Basques appellent tous les ennemis les Turcs, parce que enfin voilà, et donc c'est la fille à qui on fait boire, enfin les Turcs font boire, et du coup elle déshonore sa famille, et donc après tous les gens donc essayent de chasser cet envahisseur, enfin bref, c'est un peu ça l'histoire. Et enfin moi je connaissais l'histoire, mais je sais pas du tout comment ça se perçoit quand on n'a pas ces clés là. En fait, concernant la pièce, la fête. Ouais.
Là, on est entre les mains de Otar Yoseliani, qui ne voulait pas mettre de sous-titres dans ses...
Enfin, c'est une petite anecdote. En fait, une fois, il m'a dit, mais je ne comprends pas les réalisateurs qui obligent leurs comédiennes d'apprendre le texte par cœur. En fait, parce que comme si c'était du Shakespeare ou de la Bible. Et en fait, il imitait les oiseaux. Et je pense qu'il y avait quelque chose où... je pense que quelque part, il devait trouver que ça limite l'information. Du coup, ça dirige l'impression dans une direction et ce n'est pas peut-être la bonne. Donc, je me suis dit que c'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas que ça soit sous-titré. Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires aussi ? Oui, là, non ? Oui ? Oui. Attendez, je vous arrête.
Peut-être juste autour de ce sujet-là même, dans le premier film, c'est juste par curiosité, mais de quoi ils chantent en fait ? De quoi les chansons qu'on entend dans le premier film, de quoi il s'agit de façon générale ? Je sais que c'est difficile de raconter tous, mais juste... Parce que ça pourrait ajouter quelque chose aussi par rapport aux images qu'on regarde, je ne sais pas.
En fait, il n'y a pas vraiment, souvent il n'y a pas vraiment la parole en fait. C'est des voix qui se reprennent, mais il y a une différence des octaves. Donc, par exemple, enfin, moi, je suis pas pro de la musique non plus, hein. Mais par exemple, quand il y a la voix très au milieu, après il y a une voix qui est très très bas, et après il y a très haut. À part celle de Gouria, d'où viennent tous nos politiciens, où, en fait, c'est une voix qui, comme si elle faisait des, enfin, c'est des frioritures très particulières, en fait. Et après, bon, bah, il y a des blagues en Géorgie comme quoi ils habitaient très loin l'un de l'autre, donc ils avaient absolument besoin d'inventer ça pour se faire entendre. Il y a juste une chanson quand on est en Migrélie, au bord de la mer Noire. Il y a des images des gens qui pêchent et tout ça. Et tout à la fin, sur le plan de plantation de thé, c'est une chanson en migrélien qui est très très triste, et c'est un dialecte migrélien aussi qui est censé être berceuse, mais c'est plutôt une berceuse tragique. Donc je dirais pas, enfin après dans Carretti c'est vraiment c'est comme la dernière chanson de Euskadi où c'est par exemple, ça peut être un mot, comme par exemple Mrawal Jamieri, qui veut dire à tout jamais, qu'on chante souvent à Nouvel An. Mais vu comment c'est dit, c'est une espèce de. C'est comme. Comme une espèce de mantra qui s'est créé après en progression. Mais je ne peux pas dire vraiment qu'il y a des paroles dans ce que j'ai entendu. Et d'ailleurs, c'est un choix parce qu'il y a d'autres où il y a des paroles. Par exemple, une de ces chansons a été utilisée dans Nosferatu, il me semble. Oui, exactement. C'est à la toute fin. Mais là, il n'y a aucune. Dans le film que vous allez voir, il y a plusieurs chansons avec des paroles, justement, et textes qui l'utilisent dans Seule la Géorgie. Mais ici, je pense que c'est délibérément pas ça du tout. Ouais.
Peut-être pour continuer, alors, même si vous n'êtes pas musicologue, mais est-ce que, justement, parce qu'on le voit très bien avec. Shkadi, mais aussi quel est le rapport avec le sacré et le profane de ces chansons? On a l'impression que c'est un petit peu entre, qu'il y a quelque chose de voilà, le rapport au sacré, au religieux et au profane.
Mais c'est toujours un rapport avec sacré, toujours. Enfin, tout ce qui est ces chansons, on appelle ça folklore, mais enfin, il y avait une théorie à un moment donné que OK, c'est une création orale qui se transmet d'une génération à l'autre. Il peut y avoir des modifications, mais en même temps, j'avais connu quand j'étais jeune des chercheurs qui allaient interroger les femmes très, très âgées sur la transmission de comment c'est gardé. Parce que, pour vous dire, la Géorgie, c'est un tout petit pays. On le voit à peine sur la carte, et quand même il y avait eu plusieurs passages de plusieurs invasions. Il y avait des Perses, après les Ottomans, et après les Arabes qui ont, je pense que pendant 11 siècles. Et comment quand même le pays a fait pour garder ce qui appartient à des traditions extrêmement anciennes. Et donc, il y avait cette théorie comme quoi cette tradition orale garde quelque chose qui, on pourrait dire, voilà, le sacré du peuple, justement, parce que c'était oral et c'était impossible ni de les brûler, ni de l'exterminer, et que c'était quelque chose qui était extrêmement précieux. Bon, malheureusement, quand j'étais née, déjà, les clés vers le gardien du temple étaient déjà suffisamment perdu, surtout sous les soviétiques. Mais toujours, c'est par exemple tout ce qui est les chants de laboureurs, ce que vous avez aussi entendu, c'est tout le rapport avec Dieu. C'est vraiment presque comme une prière. C'est pour ça que je pense que je me réfère toujours à la musique classique ou quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui va beaucoup, beaucoup plus loin que comment dire, une simple tradition orale ou quelque. C'est très loin des profanes, en fait, parce que même la continuité des voix et à quel moment et quoi, ça peut créer un scandale, parce que certains vont dire: ah non, c'est pas toi d'abord, c'est l'autre, parce que c'était très très, comment dire, c'est comme un rituel sacré. Et par exemple, il y a des chansons aussi que les gens chantent pour aller à la chasse, et c'était non seulement il fallait chanter, mais aussi, c'est presque un rituel de purification. Comment on tue l'animal, à quelle quantité, à ce que le rapport soit égal et pas du tout. C'est-à-dire, est-ce que les dieux vont décider que la chance est de ton côté ou la chance va être du côté de l'animal? C'est assez étrange, mais je m'y reconnais parfaitement, parce qu'il y a quelque chose aussi très, très ancien dans... malgré les apparences que peut-être que chacun de nous porte, et ce qui est extrêmement lié à la tradition. Et donc, oui, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Si, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions de musicologie, mais pas seulement?
Que... Bonsoir. En Géorgie, on n'a pas vu de femmes chanter.
Oui, mais elles chantent. Il y a une voix de... Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison, parce que c'est peut-être aussi lié au sacré, parce que les femmes n'étaient pas très autorisées de rentrer dedans. Et c'est vrai que j'invente à moitié, mais c'est vrai que, par exemple, en Svaneti, c'est le premier épisode de Vieilles chansons géorgiennes. Je me souviens, j'ai même assisté une fois, c'était je ne sais plus comment, je me suis retrouvée avec les... avec la garde frontalière, qui non seulement qu'ils ont chanté seuls, mais c'était incroyable parce que quand on est là, c'est vrai que je vous conseille à tous d'y aller parce que c'est quelque chose d'extrêmement unique. On a l'impression d'être dans une nouvelle de Borges ou quelque chose. C'est très archaïque. Et je me souviens que non seulement que les hommes étaient seuls à chanter, mais ils étaient aussi seuls à servir à table. C'est-à-dire que les femmes préparent et c'est eux qui servent quand il faut faire la table. Et les femmes chantent. Par exemple, cette berceuse, c'est la voix des femmes, mais c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. C'est vrai que tout ce qui se réfère au classique chant traditionnel géorgien, c'est surtout des hommes. Ouais. Et je pense que c'est aussi parce que lié à cette espèce de gardien du temple de sacré qui étaient les hommes, souvent. Enfin, dans la plupart des cas.
C'est une remarque, c'est que dans Vieilles chansons géorgiennes, on a l'impression, et ça me fait penser aussi, quand vous dites les multiples invasions, il n'y a aucune référence au fait qu'on soit dans une république soviétique. On a l'impression que c'est un pays absolument autonome ou à part. Voilà, c'est certainement... une volonté, là encore, délibérée de la part d'Otar Yoseliani.
Oui, oui, bah, je pense, là j'invente, c'est mon interprétation, mais je pense que quelque part toute sa vie, il cherchait quelque chose qui est en lien avec quelque chose qui est de l'ordre de l'éternel. C'est très... Mais c'est mon impression, le rapport au temps, le rapport à des... C'est pour ça que l'amitié, par exemple, bah, Julie peut en parler, c'était presque de l'ordre des sacrés. Les gens qu'il aimait, il aimait vraiment. Les gens qu'il aimait pas, il aimait pas pour de vrai. Ceux qui ont eu le malheur de l'expérimenter peuvent le dire, vraiment. Ça veut pas dire que c'était quelque chose qui était au-delà du temps. Même dans le film, même dans Le Merle chanteur, on ne comprend pas dans quelle époque on est, alors que c'est 70, c'est Brejnev, c'est horrible. Mais là où il regarde, il cherche, voilà, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi. C'est presque un philosophe, tout en étant cinéaste, parce que, pas presque, carrément. La musique aussi, parce que ça a un rapport avec quelque chose de plus haut, c'est toujours les sphères qui ne sont pas abîmés par le régime, alors que lui, il était très bien placé pour en parler, même dans ses films. Mais c'est toujours très un thème très présent, mais au loin, c'est pas le premier plan. C'est pas. Et là aussi, c'est vrai ce que vous dites, parce que c'est quand même 69. 69, c'est pas simple. C'est déjà Brejnev, il me semble. Donc alors qu'il va là où l'air est libre. Mmh. Oui.
C'est très frappant, oui. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une dernière intervention?
C'est comme une identité, c'est une
Oui, non, mais tout à fait. Et la Géorgie aussi est comme ça. Je pense que c'est pour ça que c'est pour ça qu'il a mis, à mon avis, cette chanson géorgienne à la fin de ce film, parce que la dignité de l'homme, c'était quelque chose qui était, à mon avis, très séduisant à ses yeux aussi. Bah, lui, il était comme ça, et c'est ce qu'il appréciait. Mais je vous conseille, parce que les Géorgiens sont ceux qui disent « tu au Dieu », en fait. C'est vrai, dans les textes, c'est toujours ça. C'est « tu », c'est plus important que « vous ». Parce que « vous », ça reste dans le domaine de politesse, alors que « tu », c'est un vrai rapport. C'est sans filtre, voilà. Et au roi, on dit « tu ». En géorgien. Et c'est vrai qu'en dehors de la ville, je vous conseille, parce qu'il y a encore un peu de ça qui reste. Tant que ça reste, oui, ça, il faut voir.
Bien. Merci, Nino, qui est
merci,
c'était
merci
un
beaucoup,
grand
hein,
plaisir.
Vraiment. Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Et on l'espère. Dans un mois, voilà, pour un triptyque qui sera, je pense, assez passionnant, roman et enfin, triste aussi, puisque ouais. la Géorgie est remuée par une nouvelle épreuve, comme c'est le nom du dernier épisode de Seule Géorgie. Voilà. Merci,
merci
Nino
beaucoup. Merci. Merci.